Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Cause Commune et dans l'émission hebdomadaire Onde de choc de PEPS. Et elle est animée aujourd'hui par Didier Racinet, moi-même, qui suis rédacteur en chef de la revue Alters Media. Et nous recevons aujourd'hui Pierre Bans, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La Grande Fédération, démocratie directe et vie fédérale ». Mais il a écrit de nombreux autres ouvrages, et en particulier un qui est « La fascinante démocratie du Rojava, le contrat social de la Fédération de la Syrie du Nord », qui évoque le monde effectivement du Rojava. Alors, nous voulons discuter avec lui, avec Pierre, de ce livre sur la Grande Fédération. Et nous avons intitulé l'émission « La révolution communaliste et la société ». Donc Pierre, vous avez publié en 2025 cet ouvrage, hein, « La Grande Fédération ». Et pouvez-vous nous préciser l'objet de votre livre ?
Alors, bonjour à tous les auditeurs. J'ai voulu répondre par ce livre à ce qui me semble un manque dans la proposition d'une société alternative au capitalisme et à l'étatisme, soit l'absence d'études approfondies sur les institutions administratives et économiques, leurs fonctions comme leurs rouages, également l'absence d'études des droits humains et des libertés fondamentales et de leur exercice dans ce nouvel environnement institutionnel. Alors, ce livre n'est pas une doctrine, c'est plutôt une feuille de route. Rien n'y est arrêté, tout y est à discuter.
Très bien. Feuille de route, moi j'ai lu dans ce livre effectivement que le monde nouveau se prépare bien avant la révolution. Et c'est, je crois, l'un des leitmotifs, l'un des sujets sur lesquels vous vous êtes penché. Vous organisez en fait l'ouvrage autour de quatre thèmes que vous avez présenté sous forme de quatre théorèmes. C'est tout à fait original. Et chacun de ces théorèmes, et nous en sommes bien sûr, on ne peut qu'être d'accord avec eux. Nous allons en débattre, mais pouvez-vous d'abord nous présenter ces quatre grands théorèmes qui finalement organisent un peu votre pensée?
Alors, sur le premier point, l'histoire nous enseigne que si les anti-autoritaires ne sont pas organisés et s'ils ne proposent pas un projet de société libertaire, l'État et les partis ou quelques groupes organisés rétabliront l'ancienne société. Donc ces quatre théorèmes ont été faits pour donner corps au livre et à l'idée du livre. Évidemment, le mot théorème peut-être pas très habituel, mais j'ai trouvé que ça correspondait quand même à une réalité. Ces quatre théorèmes correspondent aux quatre parties du livre, en fait. Le premier, c'est croire que l'État ne peut pas être dominateur, et comme croire que le capital peut ne pas être profiteur. Parce que si la question de l'élimination du capital ne fait pas débat dans le mouvement alternatif et révolutionnaire, par contre, la question de l'État est plus sensible. Certains pense que l'État ne peut pas être supprimé. Le deuxième théorème, sans un mouvement pour la démocratie directe, la commune et le fédéralisme, un autre futur est impossible. Alors je pense qu'il faut s'organiser pour préparer cette révolution à venir. S'organiser, ça veut dire aussi penser à autre chose, parce qu'il ne s'agit pas de reconstituer un parti. On a vu que le parti, sa vocation, c'est de prendre le pouvoir, mais en même temps, et trouver quelque chose qui soit assez solide pour agir dans le présent, comme une force de défense de divers intérêts qu'on peut défendre, celle des travailleurs, celle de l'écologie. Et donc, je fais des propositions à ce propos. Le troisième théorème, c'est faute d'avoir pensé les institutions de la société à venir, la révolution communaliste est vouée à l'échec. Et là, l'idée, c'est que si on n'a pas réfléchi avant à ce qu'on veut faire, d'autres y ont réfléchi pour nous et le projet alternatif sera, d'une société alternative sera, on retrouvera ce problème de la résurgence de l'État ou de ceux qui veulent en prendre le contrôle.
Et c'est bien l'objet de la discussion, c'est vraiment de justement réfléchir, discuter ensemble de la façon dont on peut préparer cette évolution, cette transformation, cette révolution.
Et le quatrième théorème, c'est faute d'avoir dessiné les droits et libertés de la société à venir, la révolution émancipatrice est vouée à l'échec. C'est-à-dire que c'est bien de faire une société fédérale, mais il faut aussi penser quelle va être la vie des gens, et la vie des gens au travers des libertés publiques, des droits humains. Si on prévoit pas ça, on risque des dérapages très vite, et la renaissance d'anciens concepts qu'on devrait abolir, tels la propriété privée, qui est considérée par les droits humains comme une liberté fondamentale, un droit imprescriptible, dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Tout à fait. Donc, en fait, ces quatre chapitres, ces quatre théorèmes structurent quelque part la proposition portée par le livre. Ce qui m'a frappé, c'est que ces théorèmes n'abordaient pas en eux-mêmes les problématiques de la société, je dirais, dans sa dimension économique et sociale, dans sa dimension des rapports que l'on connaît être capitaliste, hein, dans le monde où l'on vit. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Peut-on penser les institutions d'une société nouvelle, hein, d'émancipation, sans intégrer cette réflexion dans cette transformation en profondeur dont on a vraiment besoin de mettre en œuvre, parce qu'on ne sort pas du capitalisme comme cela? Qu'en pensez-vous? Peut-être est-ce que je n'ai pas bien compris ou je n'ai pas suffisamment lu le livre.
Je pense que les choses sont liées. Quand les citoyens sont amenés à décider de leur commune, des actions à mener, c'est-à-dire quand on leur demande leur avis et qu'ils engagent leurs responsabilités individuelles et collectives, ce sont bien les fondements sociaux de la société dans leur aspect qui sont modifiés. Quand les travailleurs et les travailleuses prennent le contrôle de leur entreprise et repensent les modes de production dans l'idée d'une décroissance raisonnée et d'une consommation raisonnable, ce sont bien les fondements économiques de la société qui sont transformés, puisque ça implique des questions comme qu'est-ce qu'on fait de l'argent, on le supprime, comment on organise la production, la planification, tout ça, ce sont des questions qui sont étroitement liées, à mon avis. Quand on aborde la question des droits de l'homme, tels qu'ils résultent dans les textes historiques ou dans les traités internationaux, on peut dire qu'on va repenser les libertés fondamentales dans un nouveau système, et qu'on va aborder pas seulement des questions relatives aux libertés individuelle ou collective, mais aussi des questions comme des droits, le droit à la protection sociale, à la santé, au logement, sur des nouvelles bases égalitaires, dans un processus d'auto-administration et d'auto-gestion. Et cela sous la direction et le contrôle des citoyens, des communes. Donc c'est toute la vie qui est changée. Alors je ne sais pas si je réponds à ta question.
Si, en partie, non, mais en grande partie. Je vais un tout petit peu approfondir, hein, aller un petit peu dans le sens d'une idée que il faut préparer effectivement cette transformation y compris dans les institutions d'ordre politique, mais aussi dans le monde de la société civile, de l'activité économique et sociale. Il faut le préparer. Est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez que ces éléments-là vont spontanément peut-être sortir? Et dans quelles conditions cela va se faire? Est-ce qu'on n'a pas à réfléchir, mais pas simplement réfléchir, à voir avec les citoyens comment engager, avant la transformation sociale, les différentes formes que ça va prendre?
Oui, je suis d'accord avec cette observation. Par exemple, dans le livre, je parle de la question de la sécurité sociale. Eh bien, il faudra, là aussi, sur cette question, réfléchir avant comment on va réorganiser la sécurité sociale. Comment ça va fonctionner, comment ça va s'articuler avec le système de santé. Ça doit être prévu, là aussi, parce qu'il ne faut pas qu'au moment de la révolution, on reste dans l'incertitude sur le fonctionnement de toutes ces institutions sociales. Hein, j'aborde aussi les questions du logement, aussi. Comment on va répartir les logements entre les citoyens, sachant qu'il y a de grandes inégalités aujourd'hui, et comment on va le faire de manière humaniste, c'est-à-dire sans violence, comme ça a pu être fait dans d'autres révolutions, et ça a été contre-productif. Donc oui, on retrouve ça dans le livre au fil des sujets abordés. Hein, ils sont pas...
Oui. Tout à fait, très bien. Alors... Une question encore sur le sujet, qui me semble, lui, vraiment important. Le communalisme s'appuie sur une idée forte, hein, entre autres, l'idée que c'est au niveau des communes et à travers des communs que les citoyens pourront exprimer, d'abord manifester leur prise en main de leur destin, hein, de leur vie, pourront réaliser dans la société elle-même les souhaits, les choix qu'ils veulent faire. C'est commun, c'est précisément leur objet, hein, que d'être la manifestation institutionnelle créée par les masses, enfin les citoyens, le peuple, à partir duquel justement ils sortent quelque part un petit peu du monde capitaliste. En partie, hein, on parlera un peu plus loin de cela, mais est-ce que cette forme de commun, qui me paraît très juste, hein, dans la mesure où il exprime une pratique et un mouvement politique complètement antagoniste avec le système capitaliste lui-même dans la réalité de la vie sociale, est-ce que ce système des communs te paraît être, je dirais, un élément important de la transformation sociale?
Alors là, ma réponse sera brève, parce que oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mmh. Et dans le livre, pareillement, la question des communs, elle apparaît au fur et à mesure du livre, selon les sujets abordés. Même si ce livre insiste sur les fondements institutionnels du projet révolutionnaire alternatif, c'est quand même... J'ai fait le livre pour parler des institutions, hein, et des droits, ce qui me paraissait moins approfondi par les autres auteurs, qui au contraire ont développé largement...
On va en parler, c'est vraiment le sujet sur lequel on va s'attacher. Je poserai peut-être une question supplémentaire. Que pensez-vous justement de cette notion des institutions pensées par Dardo Laval, hein, commune, commun, approfondie un petit peu par Pierre Sauvêtre d'ailleurs?
J'ai lu tous ces livres, ça m'intéresse beaucoup.
D'accord.
Mais je trouve que sur la question du fonctionnement des institutions, de la forme des institutions, eh bien, on s'arrête au bord du précipice. Hein. C'est-à-dire que ces auteurs ne s'y aventurent pas. Alors moi, je l'ai fait peut-être parce que j'ai une formation de juriste et que les institutions, c'est des sciences politiques, mais c'est surtout au départ du droit public, du droit administratif. Et ce droit tel qu'on le connaît permet d'aller au-delà et de penser avec d'autres auteurs, anciens même, qui avaient réfléchi à de nouvelles institutions non étatiques, dans un système non étatique, des juristes, mais ils sont pas, c'était pas des révolutionnaires forcément, c'était dans un style plutôt des proudhoniens réformistes, comme Gurvitch par exemple. Mm. Par exemple.
Oui. Donc, très bien. Eh bien, donc on va aborder maintenant le thème, c'est ce thème-là, cette dimension institutionnelle au niveau précisément de l'administration, enfin plutôt de du système politique qui devrait précisément remplacer le système actuel. Vous indiquez dans le livre que la chute de l'État et du capital ne sera pas tant le fait d'une élection, d'un grand soir, d'une jonction d'espaces libérés, que des complémentarités des différentes formes de lutte adaptées à la situation concrète du moment révolutionnaire. Probablement une grève générale suivie d'un soulèvement populaire. Donc, vous précisez, je commence par là, cette question de la stratégie, on abordera l'institution elle-même après. Vous indiquez aussi dans le chapitre sur l'autogestion que, et la fin du capital, que seule la grève générale, bien préparée avec les syndicats, permettra de vaincre le capitalisme et de lancer une économie socialisée. Pouvez-vous présenter dans ces grandes lignes vos propositions en matière de stratégie, de prise du pouvoir ?
Alors, c'est un auteur qui s'appelle Eric Olin-White a bien étudié dans son livre « Utopie réelle » toutes les stratégies révolutionnaires pour parvenir à une société émancipée. Et il conclut en fin de compte à leur complémentarité. Dans le processus révolutionnaire qu'il appelle la transformation symbiotique, chacun aura un rôle à jouer en fonction de ses choix, de ses expériences, selon les circonstances et les évolutions de la révolution.
Est-ce que vous allez rappeler en fait un petit peu ce que dit White sur les 3 ou 4, je me souviens plus exactement.
Bien, il aborde la question des luttes interstitielles, ouais. C'est-à-dire tous ces petits mouvements dans des domaines très variés, que ça peut aller des coopératives traditionnelles à des nouvelles expériences d'agriculture biologique, ces expériences qui essaient de se mettre, sinon en dehors, au moins à côté de l'État, pour produire autrement, penser autrement, travailler autrement.
Il y a les communs là-dedans.
Oui, les communs, complètement. Oui. Oui. Et il aborde aussi la question de, brièvement, celle de la lutte armée, qu'il écarte un peu parce qu'il dit qu'aujourd'hui, les forces répressives sont telles que la lutte armée n'est pas productive, pourrait-on dire. Il recherche, à travers tout cela, les positions de Bookchin qui disent qu'il faut créer des communes parallèles aux communes officielles, aux communes légales, pour les marginaliser, en fin de compte. Bon, de tout ça, comme je l'ai dit, il essaie de trouver, de dire que bon, on peut pas prédire comment se passera le mouvement révolutionnaire, mais que chacun, avec ses expériences, pourra contribuer à ce mouvement. Et même, il sous-entend que ceux qui avaient des tendances un peu, je dirais, militaristes, auront aussi leur utilité. Mmh. C'est ça sa stratégie.
Que vous reprenez.
Moi, j'adhère à ça, oui, voilà, parce que je pense qu'effectivement, au moment révolutionnaire, la bascule, comme dit Jérôme Bachet, hein, dans un de ses livres, pour prendre le contrôle des entreprises et des administrations, pour bloquer les rouages financiers du capitalisme, pour neutraliser les réactions de l'État et des forces répressives, tout sera utile. Et c'est là que je reviens à la question que tu soulevais sur la grève générale. Mmh. Effectivement, à un moment donné, j'estime que la grève générale sera indispensable pour bloquer le système, pour empêcher l'État et ses forces répressives, le capitalisme, de bloquer la révolution. Alors, on peut prendre des exemples. Si la grève générale de 1968 et de 1936 ont effectivement montré leurs limites, mais il y a d'autres grèves générales, comme celle des syndicats anarchistes et socialistes en juillet 1936 en Espagne, qui ont fait échouer le coup d'État militaire de Franco. Donc, j'écarte pas cette possibilité. Je pense qu'il y a beaucoup à tirer du syndicalisme révolutionnaire. Fait d'ailleurs dans le livre.
Oui, tout à fait. Mais donc, c'est pas une position centrale au sens, en dehors de d'une grève générale, on n'a pas tellement de solutions qui pourraient apparaître.
À un moment donné, ça ne veut pas dire que ça va perdurer, hein, la grève générale, mais à un moment donné, elle est obligée, quoi. Alors, la grève générale, on l'a prônée, mais elle ne marche pas toujours. Hein. On l'a vu avec les retraites, une grève générale bloquante réclamée par certains syndicats, ça n'a pas marché, quoi. Ouais. On n'était pas dans un processus révolutionnaire non plus.
Ouais. Alors, une question qui est souvent posée, mais je crois que tu y as déjà un petit peu répondu quand même, c'est que bien sûr, on ne croit pas du tout que c'est lutte interstitielle, entre guillemets, c'est-à-dire les coopératives, les communs, les travaux, peut-être même la transformation de la sécurité sociale, ou dans un esprit justement de commun, enfin, j'allais dire, hein, c'est-à-dire de service de la communauté, et de mise en de service de la communauté par la communauté elle-même. Ces éléments-là, se retrouvant dans un marché capitaliste, sont presque systématiquement, je dirais, captés, dévoyés, enfin récupérés, et il n'empêche, ces mouvements forment les gens, constituent des éléments de formation politique et sont absolument nécessaires.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Même des institutions comme les coopératives ouvrières, qui ont vraiment intégré le système aujourd'hui, enfin, c'était pas l'idée du départ, ils ont quand même des pratiques de production, de gestion, qui sont intéressantes et qui sont transposables, peut-être, dans ce qu'on appellera les entreprises, dit entreprises parce que pas d'autres mots, autogérées. Tant dans l'histoire que dans le présent, toutes ces expériences sont utiles. Restera à savoir si, parce que il y a parfois, alors tu parles de la récupération, mais ça, on est tous récupérés aujourd'hui, hein. Mais parfois il y a quelque chose qui me gêne plus que cette idée qu'on puisse être récupéré, c'est parfois se développe une forme d'égoïsme, c'est-à-dire dans ces expériences on se crée un petit paradis sur terre et puis ben voilà, on fait son petit monde, sans penser à un projet collectif. La mosaïque des alternatives est très diverse.
Mais ce qui est intéressant, c'est de... dans ce que tu viens de dire, quelque chose, moi, qui m'intéresse profondément, c'est on est tous récupérés. Et ça m'intéresse énormément parce que, bien que nous soyons effectivement récupérés, le mouvement peut néanmoins avancer et produire quelque part des éléments de construction à terme d'une société nouvelle, non pas basée sur les principes de la marchandise, hein, où tout est construit pour la marchandise et pour nous obliger à penser en ce régime-là, hein, mais des systèmes dans lesquels c'est un tout autre rapport qui s'institue, de l'entraide, de la, effectivement, de des éléments de solidarité et ainsi de suite, de démocratie réelle. Ces éléments-là, moi, ce qui m'a intéressé dans la formule « Nous sommes tous récupérés », c'est que ce travail souterrain de transformation existe réellement. C'est pas parce qu'on est récupéré que il y a pas un travail souterrain qui s'effectue. Peut-être est-ce un peu idéaliste. Enfin, je veux dire.
Non, non, moi je pense pas parce que on vit dans la société telle qu'elle est. Bon, on a été formaté par cette société et il faut bien vivre. Ça n'empêche pas de faire des expériences, ça n'empêche pas de penser autrement. C'est peut-être que faire ce pas de côté de temps en temps pour ne pas pour s'émanciper de l'état qui est dans notre tête et comme tu le disais de la consommation qui est dans notre vie. Et ça doit être possible.
Absolument. Eh bien, nous allons poursuivre ce débat, mais tout d'abord avoir une petite pause musicale qui va nous permettre de reprendre la conversation sur un nouveau thème, le thème du droit et des libertés de la société à venir et de ses institutions. Voilà, bonjour à tous et nous allons reprendre la conversation que nous avons engagée avec Pierre Danse autour de la question des institutions de la société qu'il envisage, de cette société post-capitaliste. Et c'est sur la question, effectivement, des droits et des libertés de la société à venir que je voudrais arriver. Est-ce que vous pouvez, dans leurs grandes lignes, nous présenter les idées que vous développez dans votre livre « La Grande Fédération » à ce sujet ?
En ce qui concerne les libertés publiques.
Voilà, exactement. Et les droits.
C'est lié au système politique qui va être instauré, c'est-à-dire un système d'auto-administration fondé sur la commune et sur le fédéralisme, ces communes qui se fédèrent entre elles. et sur le système économique de la gestion des entreprises en autogestion par les travailleurs eux-mêmes. Alors, la question des libertés, elle se pose de deux façons différentes. Il y a d'abord, quelle liberté et comment on les adapte. Mais il y a aussi celle de la garantie des libertés, parce qu'on peut énoncer des libertés, mais sans les respecter. C'est le cas de nombreuses constitutions dans le monde. Alors, ce problème des libertés et des droits de l'homme, d'une manière générale, il est aujourd'hui à peu près satisfaisant. Il faudrait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, celle de l'ONU en 1948, les textes de l'Union européenne répondent à des droits de l'homme. Et il n'y a aucune raison d'être contre ces dispositions. Il n'y a que le sujet de la propriété qui est délicat. Alors, pour ma part, je pense que la propriété doit être abolie, mais pas seulement la propriété des moyens de production, mais du concept même de propriété. C'est-à-dire que, en réalité, tout est commun, rien ne nous appartient, et on peut tout à fait imaginer une société où il y a deux situations. Il y a la situation où il y a suffisamment de biens pour faire, comme le disait Pierre Kropotkin, une prise au tas. Hein, ce qui est en abondance, eh bien, on se sert. Et les gens, si c'est de la nourriture, ils vont pas se goinfrer parce que c'est disponible et gratuit. Et puis, il y a les biens qui sont plus rares. Et il va falloir instaurer un système qui permet aux citoyens d'acquérir n'est pas le bon mot d'ailleurs, de disposer de ses biens, d'en avoir la garde et l'usage, et de prendre soin de l'objet qu'ils auront acquis, sauf la nourriture bien sûr. S'ils ont besoin d'un ordinateur, ils iront à la coopérative ou l'institution équivalente pour chercher leur ordinateur qu'ils auront en fonction de... Alors, pendant la guerre d'Espagne, on donnait des bons aux gens. Là, moi, j'appelais ça des unités de consommation. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent, parce que c'est pas capitalisable, c'est pas cessible, c'est pas transmis par héritage. Et ça disparaît au bout d'un certain temps. Donc, chaque citoyen, petits et grands, aura la même quantité d'unités de consommation pour se procurer les biens dont il a envie. Certains voudront des livres, d'autres, je ne sais pas, peut-être faire des voyages, peu importe. Hein. Donc, la propriété n'a plus sa place dans un tel système. Système d'échange, en fin de compte, d'entraide, en définitive. S'agissant des autres libertés, des libertés individuelles et des libertés collectives, si dans les textes anciens et modernes, elles sont tout à fait acceptables, elles sont quand même adaptées à une société basée sur l'État. C'est toujours par rapport à un État et reprise ou pas reprise dans les constitutions. Là, on est dans une société où il n'y a plus d'État, en principe. Et il va falloir repenser certains droits. Par exemple... certains diraient, la liberté de penser, bon, ça, il n'y a pas de problème, mais la liberté religieuse, ça peut me gêner. Beaucoup de révolutions, justement, ont eu des pratiques répressives à l'égard des religions, et ça n'a pas été une bonne idée, en fin de compte, ça n'a pas été productif, car dans tous les cas, les religions sont revenues plus en force. On l'a vu, par exemple, récemment en Russie.
Oui, mais en Pologne, oui, c'était le cas. Oui. Avec Solidarnosc, enfin, à l'époque de Solidarnosc, plutôt, la religion catholique était un foyer de résistance.
Oui. Donc, cette liberté doit être maintenue, avec la condition, bien sûr, que la religion ou la secte ne cherche pas à renverser la révolution ou n'ait pas des pratiques à l'égard des citoyens qui sont condamnables. Mais c'est déjà le cas hein, avec les sectes. Bon, c'est un exemple, mais il y a d'autres... Chacune des libertés qu'on peut prendre comme exemple va demander une adaptation en fonction du système. Dans le travail, le droit, si on parle maintenant d'une liberté collective, est-ce que dans une société autogérée, il y a un droit du travail et il y a des syndicats? En principe, s'agissant des syndicats, ils devraient s'être fondus dans le conseil d'autogestion. Il n'y a plus de raison d'être. Mais on va s'apercevoir qu'il peut y avoir, entre le conseil d'autogestion et les travailleurs, des conflits. C'est-à-dire que les travailleurs ne sont pas d'accord avec les décisions du conseil d'autogestion qui lui-même applique le mandat que leur a donné les communes ou un groupe de communes. Dans ce cas-là, les travailleurs vont naturellement reconstituer ce qui serait un syndicat pour défendre leurs intérêts. Ce qui veut dire que on ne pourra pas se passer d'un droit du travail pour organiser la production. Que les travailleurs sachent quels sont leurs droits, même s'ils sont partie prenante à la gestion de l'entreprise. Et s'il y a des conflits, est-ce qu'on pourra se dispenser de l'équivalent de ce qu'il y a aujourd'hui d'un conseil de prud'homme.
C'est ça, d'institutions spécifiques de la justice, oui. Alors de la justice du travail, ou ainsi de suite.
Voilà, elle sera un peu différente, parce que dans un conseil de prud'homme, il y a d'un côté les salariés, et de l'autre côté le patron. Là, et ben là ça sera pas... Il y aura d'un côté les travailleurs, les parties prenantes, puis on ne pourra plus parler de salariés, puisqu'il n'y aura plus de salaire. Mais de l'autre côté, il y aura les comités d'autogestion. Bon, comme je l'ai dit, hein, dans le livre, j'ai rien arrêté. J'ai plus posé de questions que donné de réponses. Donc, on voit bien que le système des libertés est fondamental et que j'en ai fait une condition importante. Et elle engendre une autre question, c'est celle de leur garantie. Comment va-t-on garantir les libertés? Alors, dans un système étatique, pour garantir les libertés, on a une police, on a éventuellement une armée, on a une justice, on a une diplomatie, on a un système de finances publiques. Donc, il va falloir repenser ce que ces fonctions régaliennes dans un système où il n'y a plus d'État. Et c'est très difficile et certains auteurs disent il faudrait peut-être maintenir un état restreint, un état limité, un état fonctionnel, ils donnent divers noms, c'est-à-dire que sur certains points, on pourrait maintenir un petit bout d'état. Je crois que c'est extrêmement dangereux, parce que l'état est un phénix, et il a la capacité de se reconstituer très vite. Donc, il faudra inventer, dans la société future, des systèmes, des institutions qu'on pourrait appeler d'autodéfense, policière, ou militaire, ou judiciaire. Alors là, j'emploie ces mots par provocation, hein, parce que il faudra bien sûr en trouver d'autres, mais n'empêche que l'on ne pourra pas se passer de ce qui ressemblera à une police, même si les nouvelles conditions de vie devraient éliminer, à défaut limiter certains crimes et délits, on ne pourra pas se passer de ce qui ressemblera à une armée sans pour autant adhérer aux affres du militarisme. On ne pourra pas se passer d'une nouvelle justice, mais une justice qui sera fondée sur le consensus, par exemple.
Les questions que tu traites ont toujours, me semble-t-il, différents aspects. Il y a un aspect, effectivement, je dirais, d'ordre pratique et technique, et il y a un aspect politique. un aspect. Et la question que je me posais, c'est d'abord, fais-tu une distinction, comme j'essaye de l'exposer là, une dimension administrative, je dirais, une dimension politique. Et comment vois-tu, dans le système auquel tu penses, que l'institution, enfin les éléments de la politique, en fait les institutions politiques qui finalement organisent le système général.
Le système que je propose, mais je suis pas le premier à proposer ça, repose sur la commune. La commune, c'est l'unité de base. Elle est autonome, en ce sens qu'elle s'organise elle-même. Elle est souveraine parce que personne d'autre, aucune structure supérieure ne peut lui donner des directives. Mais elle est fédérée. Et si elle est fédérée, il faut essayer de concilier cette notion de souveraineté et de fédération. Si on crée des structures supérieures, alors on peut prendre simplement la région, la fédération, mais toute autre fédération utile est possible. Dans ces structures supérieures, on va prendre des décisions. Et ces décisions, elles sont censées s'appliquer aux communes, elles auront été prises par des délégués des communes, dans des congrès ou dans des bureaux permanents, je ne sais pas. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces décisions ? Donc, quand on quitte le domaine de la subsidiarité, qui fait que la commune prend toutes les décisions qui concernent la commune, la région, les décisions qui concernent la région, la fédération, les décisions. Mais les décisions régionales et fédérales s'appliquent-elles aux communes sans violer leur souveraineté? Alors, en réalité, on peut penser que la commune peut refuser une directive qui viendrait d'une structure supérieure. Elle peut la refuser, mais c'est à certaines conditions. C'est à la condition que son refus ne nuise pas aux autres communes. Et si, alors il faudra mettre en place un système de comité de conciliation, j'en parle, je développe cette question, une sorte de justice administrative. Mais si elle s'obstine à ne pas vouloir appliquer la directive supérieure, on va pas l'attaquer et lui imposer. Mais elle va se mettre hors de la fédération. Alors là-dessus, on a des exemples historiques. En Espagne, en Aragon, ils avaient constitué des collectivités agricoles. Et dans le cadre d'une commune, c'était une commune agricole. Et personne n'était obligé d'adhérer à la commune. Et certains paysans estimaient qu'ils voulaient garder leur indépendance, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les paysans regroupés ont pu acquérir du matériel, ont pu acquérir des semences, pas parce qu'ils étaient plus riches, mais parce qu'ils entraient dans un système d'autogestion avec les entreprises, par exemple de Barcelone, qui produisaient des tracteurs. Donc ces paysans qui s'étaient mis en dehors, très vite, ils ont décidé d'adhérer à la commune parce qu'ils étaient exclus du système et qu'ils ne pouvaient pas suivre et qu'ils ont vu qu'effectivement, ils ont dépassé leur aliénation, en fin de compte, de petits propriétaires.
Oui, c'est très clair. L'exemple est vraiment tout à fait intéressant pour montrer que même si on admet que la commune est la base du système, c'est-à-dire que les décisions doivent être validées par la commune, par les communes, le système quand même a sa logique propre qui permet, quand même, par un système de démocratie, d'obtenir non pas 1000 petits ensembles disparates, mais un ensemble qui, par des discussions démocratiques, fonctionne collectivement. C'est ce que tu précises. Alors, je trouve cela tout à fait riche et intéressant. J'ai envie de poser une question un peu particulière. Le système, le système fonctionne, le système dans le mode, dans le communalisme, fonctionne sur la base des communes, mais des communs aussi. Et d'ailleurs, dans la vie générale, on a toutes sortes de, moi j'appelle ça des communs, mais on peut appeler ça des coopératives. Je préfère un peu le mot commun, mais et ces communs qui touchent précisément à des activités pour la communauté, qui sont créés spontanément, je dirais, par le citoyen, l'acteur, qui a envie de réaliser quelque chose dans le cadre de cette, pour la communauté, mais dans un cadre assez précis de fonctionnement démocratique, orienté justement vers quelque chose de collectif. Eh bien, ces éléments-là dans la vie, on ne peut pas ne, les et d'abord, ils vont se fédérer, d'abord peut-être au niveau communal, ils vont se fédérer à d'autres niveaux, et on ne peut pas passer, me semble-t-il, à côté, enfin exclure tout cet élément de la vie qui est essentiel à la vie générale de la discussion politique, hein, de l'organisation générale. Autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que avec le système de la fédération des communes, il y ait aussi un système de la fédération des communs, organisé peut-être par différents moyens, on ne sait pas, mais que ces deux ensembles fédéraux doivent eux-mêmes échanger à différents, à chacun des niveaux qui existent et entre eux pour fonctionner collectivement. Est-ce que ça, ça te paraît pertinent?
Alors, dans ce que je propose, hein, alors je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je dis ce que moi, dont je propose. Dans le système fédéral, on va avoir deux branches. On va avoir la branche administrative, c'est-à-dire les communes qui se fédèrent, et on va avoir la branche économique, c'est-à-dire les lieux de production, de répartition, d'échange, de services, qui sont... Alors, je sais que le mot entreprise ne te plaît pas beaucoup.
Non, mais... parce que vraiment, là, on ne sort pas du monde capitaliste.
Mais je vais l'utiliser quand même pour qu'on comprenne bien. Ce qui était des entreprises vont se mettre en autogestion. C'est-à-dire que chaque unité de production va, au moment de la révolution, se constituer un conseil d'autogestion formé par les travailleurs qui aura été désigné en assemblée générale. Ces modes de production et de répartition vont eux-mêmes se fédérer au niveau vertical, par branche d'industrie, pour produire. Je reprends le schéma syndical, en fait. Hein. Ouais. Et au niveau territorial...
Et dans un mode de fonctionnement
qui n'est plus le même.
Ah, qui serait différent. Ah, mais que... on garde la structure. Oui. C'est ça qui est un peu gênant pour moi.
Mais... Ouais. Moi, je l'ai gardé. Mais ce système, on va falloir repenser comment la production, hein, par des échanges entre les différentes structures, qui ne sera plus des échanges financiers, mais une sorte de comptabilité industrielle, de moyens.
On pourrait discuter.
Oui, mais... ça, moi, c'est justement un sujet de discussion.
Tout à fait.
Moi, je dis quelque chose, mais c'est peut-être... Quand j'ai fait le livre, je me suis dit que j'aurais fait un bon livre si les gens disaient ce qu'il a dit, c'est un peu mou, moi j'irais plus loin. Ou au contraire, ce qu'il a dit, ça va trop loin, j'irais moins loin. Et surtout, ce qu'il a dit, ben moi j'ai une meilleure idée. Donc, j'en reviens à ce que moi je dis, voilà. Et entre la structure administrative et la structure économique, il y a plus qu'un échange, il y a d'abord... un mandat qui est donné par la Fédération des communes aux organisations de production.
Et ça, c'est un vrai débat actuellement dans le mouvement communaliste. Hein.
Oui.
Est-ce que c'est la commune qui décide? Ça, c'était la position de Bookchin. Hein. La commune décide pour les entités de commun, hein, de travailleur en fait. Et ça, c'est assez maintenant un petit peu contesté quand même hein, dans le monde.
Alors, dans le syndicalisme révolutionnaire,
d'accord,
hein, il y a un livre qui de 1934 qui ressemblerait un peu à ce que j'ai fait d'un syndicaliste révolutionnaire, Pierre Besnard, qui se fondant sur la charte d'Amiens de 1906, hein, la charte d'Amiens, c'est la charte du syndicalisme, hein, qui dit que le syndicat n'est pas seulement l'organe de défense des travailleurs, mais est aussi l'organe de préparation de la société future, d'entraînement, et qu'il va se substituer à la société future. Donc le syndicat avait un rôle fondamental. Cette idée, bon, aujourd'hui, elle paraît dépassée, mais ce que j'ai fait dans le livre, c'est de dire que, d'une part, les travailleurs sont aussi membres de la commune, donc ils peuvent apporter dans l'assemblée de la commune ou des fédérations de communes le point de vue des travailleurs, et que ils sont partie prenante. Maintenant, si la commune donne un mandat, donc si les citoyens, tous les citoyens, travailleurs compris, décident qu'on fait telle production et donne mandat aux producteurs de réaliser ce mandat, il faut penser que quand il s'agira de faire le travail, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui vont décider.
Je comprends, mais là... La démocratie, c'est aussi qu'il y a des échanges entre eux, je dirais, alors je parle pas d'entreprise, là, entre les communs, c'est-à-dire les gens qui produisent quelque part, mais dans un mode particulier, hein, des rapports sociaux bien définis, et les communes qui représentent les habitants hein, locaux. Voilà, c'est la démocratie, elle se joue aussi là-dessus.
Oui, alors dans le...
Pourquoi la commune donnerait-elle un mandat, un ordre, quelque part, aux travailleurs, dans leur commun?
C'est pas... Il leur donne un mandat de produire... Il va falloir bien savoir ce qu'on va produire.
Est-ce que ça peut pas se définir dans une discussion d'abord
si, absolument.
Entre communs?
Absolument, parce
et
que...
des communs à différents niveaux avec les habitants, qui sont dans les communes, qui sont peut-être eux-mêmes d'ailleurs regroupés en consommateurs, et ainsi de suite.
Dans le système, j'ai prévu des comités de coordination.
D'accord.
Donc, qui répondraient à cette question. Donc là, on ne peut pas développer. Puis,
bien sûr. D'accord.
Non, mais c'est vu. Hein, c'est
d'accord.
Vu.
D'accord.
Mais je pense qu'il y a on n'échappera pas à la planification. Alors, la planification à la mauvaise presse. Hein, cause de l'expérience soviétique, mais elle est inévitable. Et parce que on parle pas là d'une petite commune, on imagine un système dans par exemple dans un pays comme la France. J'ai pris ce modèle, on peut en prendre d'autres, hein. Et donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut produire en fonction de la population, de s'il y a des jeunes, s'il y a des vieux, s'il y a les écoles. Il faut faire un plan. À partir de ces projets, la commune, où sont aussi les travailleurs, va faire des projets de production, des plans de production et de distribution. Alors, ça va être compliqué, hein, bien sûr, hein, mais c'est inévitable.
Je pense que on pourrait en discuter peut-être ultérieurement. J'avais une autre question à te poser. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Ça touche à la problématique, enfin au mot que tu as utilisé de souveraineté. C'est une question quand même de principe, me semble-t-il. La souveraineté vient du mot souverain. Souverain, c'est un pouvoir. Des pouvoirs, il y en a multiples. Hein. Quelqu'un qui décide, il a le pouvoir de décider. Mais ce pouvoir souverain, c'est un pouvoir très particulier parce qu'il est au-dessus de tous les autres. Il s'impose à tous. Et bon, ce souverain, ce principe de la souveraineté, bon, ben, on le connaît, c'est, par exemple, sous la royauté, ben, le roi, c'est le souverain, c'est lui qui a ce pouvoir majeur, au-dessus de tous. De nos jours, dans le monde capitaliste, dans le monde bourgeois, on a inventé le principe de la souveraineté du peuple. Mais cette souveraineté du peuple, elle passe par l'intermédiaire de représentants élus pendant 5, 6 ou je ne sais combien d'années. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de populaire, puisque le peuple, à travers ses élections, a donné son pouvoir de décision à quelqu'un qui va précisément l'utiliser lui-même à la place des gens qui lui ont donné le pouvoir. C'est lui qui décide, les autres. Donc ce n'est plus ce pouvoir souverain du peuple, c'est pas un pouvoir populaire. C'est vraiment pas ça du tout. Mais ça illustre quand même cette notion de souveraineté, hein, ça prend cette forme-là dans le monde bourgeois. Est-ce que dans le monde à venir, il faut garder, à ton avis, ce principe de souveraineté? Et je dirais qu'il est extrêmement dangereux, parce que donner un pouvoir absolu, finalement, supérieur à tous les autres, à une instance, une institution particulière, ça pourrait être l'Assemblée nationale, hein, enfin je dis, c'est ce qui se passe de nos jours, hein, dans le monde bourgeois, ça pourrait être autre chose, mais enfin une institution, eh bien on court le risque là clairement d'avoir une main mise sur la société, hein, sur le pouvoir, sur le monde lui-même, et là c'est très dangereux. D'où ma question, d'abord, est-ce qu'on garde le principe de souveraineté? Et si on ne le garde pas, comment pourrait-on le changer? À quoi pourrait-on penser pour que ça fonctionne néanmoins? On pourra en discuter.
Alors, tel que je l'imagine, la souveraineté, et la seule souveraineté qui existe, c'est celle de la commune. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aucune structure supérieure ne peut imposer quelque chose à la commune.
Je le limite. Oui, mais il y a une souveraineté quand même. Donc le principe est là.
Il y a une souveraineté par rapport à l'externe.
Hein. Pas que. C'est aussi une souveraineté. C'est une institution, une commune.
Oui.
Et donc ce pouvoir supérieur dans la commune, il est donné à cette institution. Oui. Et elle s'exerce sur les habitants.
Les habitants sont la commune. C'est tout. Et donc, les structures supérieures ne sont que des agglomérations, et selon leur utilité, hein, ne sont que des agglomérations de communes. Mais elles ne peuvent pas, elles n'ont pas de souveraineté propre. La fédération n'a pas de souveraineté propre, la région n'a pas de souveraineté propre, et toute autre structure fédérale n'a pas de souveraineté propre. La seule souveraineté qui existe, c'est celle de la commune, et des communes, de chaque commune. Et ça va pas plus loin.
Alors, et s'il y avait un système qui, au niveau d'une commune, de la commune précise, des entités qui captaient ce pouvoir-là, quelle solution les populations pourraient avoir pour justement reprendre les principes de démocratie réelle?
Le principe dont il faut parler, c'est celui de la délégation. Le système de démocratie directe fonctionne par la délégation. Chaque activité est exercée, que ça soit du représentant de la commune à un congrès fédéral, ou que ça soit l'exercice d'une mission judiciaire ou policière ou autre, est basée sur la délégation. Et cette délégation, elle est particulière, donc elle est très différente de celle qu'on donne à un député. D'ailleurs, il y a dans la Constitution française, à l'article 27, il est dit que le mandat impératif est interdit. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et que le député, par exemple, n'est pas le représentant de sa circonscription, mais est élu par une circonscription et qu'il est représentant de la nation. Eh bien ça, évidemment, on fait table rase. Et le délégué, quel que soit son niveau, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa mission, que ce soit une mission d'administration ou une mission de représentation, est désigné ou élu, ça c'est selon les procédures, avec un mandat, sinon impératif, au moins précis. Il est révocable à tout moment. D'ailleurs, ça, c'est pas une nouveauté. Les anarchistes croient qu'ils ont inventé ça, mais ça figure dans le Code civil de 1804 sur le mandat. Les missions sont rotatives, hein, c'est-à-dire qu'il y a une rotation pour éviter la professionnalisation. Bon, il y a tout un système de garantie qui est posé par le mandat. Et le mandataire, c'est-à-dire le délégué, a une responsabilité, mais sa responsabilité, c'est une responsabilité limitée, en ce sens que, supposons qu'il soit démandaté, il peut l'être à tout moment, parce qu'il a mal exercé son mandat, ou il a commis des erreurs, ou il n'a pas été sérieux, il reste que sa responsabilité est partagée avec celle de ceux qui l'ont mandaté, avec cette idée qui est ancienne des chartes du Moyen-Âge, dont parle d'ailleurs Pierre Kropotkin, qui est de dire que ceux qui l'ont mandaté, ils ont commis l'erreur de le mandater. Et donc, que s'ils exercent mal son mandat, eh bien, ils sont co-responsables. Ce qui évite aussi aux mandatés d'être stigmatisé, en fin de compte. Il reprend sa place et on en nomme un autre.
Eh bien, Pierre, on arrive à la fin un petit peu de cet entretien. Je voudrais simplement te demander de dire en quelques instants, quelques mots, si tu le souhaitais, un petit peu de conclusion, d'éléments, sinon de conclusion, du moins, Oui.
je l'ai dit tout à l'heure, hein, mon objet, c'est de soulever des problèmes. Et ma conclusion, c'est celle de l'intérêt que portera le lecteur aux questions que je soulève et des propositions qu'il pourra en faire pour faire progresser l'idée. Donc, c'est dans l'histoire, ça s'inscrit, c'est un petit pas dans l'histoire de la démocratie directe et du fédéralisme. Je dirais que le lecteur doit lui-même, pour lire ce livre, doit faire un effort de faire un pas de côté. Comme le disait la philosophe Simone Weil, hein, on ne peut pas, si on ne se met pas dans la situation nouvelle, on ne peut pas, on continue de raisonner avec les acquis de l'ancien système.
L'ancien système. Exactement. Ben on va sur cette belle phrase de Simone Weil, on va conclure et peut-être remercier d'abord Pierre Banse de cet échange, de cette discussion. Remercier aussi les auditeurs pour nous avoir suivis et donc peut-être à la prochaine fois et à bientôt.